de Dieu. Dieu appelle des hommes, des femmes. Amen. Amen. Ben, il appelle aussi des enfants. Oui. Et aujourd'hui, on va voir l'appel le plus célèbre d'un enfant. C'est l'appel de qui? Samuel. L'appel du jeune Samuel. Parce que Dieu nous appelle à son service et il nous appelle à des tas de choses. À nous d'entendre sa voix et de répondre à son appel. Alors on va aller dans le livre de Samuel, justement, le premier, 1 Samuel, au tout début, qui raconte l'histoire de cet appel. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans l'appel de Samuel, c'est qu'il y a d'abord, qui précède, quelque part, un autre appel. C'est ce qu'on va voir ce matin. L'appel du jeune Samuel au chapitre 3 n'arrive pas comme ça, sorti de nulle part. Il y a une histoire. Il y a un arrière-plan. Comme chacun d'entre nous. On n'est pas surgi de nulle part comme ça. Hop, je suis là, j'ai 40 ans. Non. On a tous un passé, on a tous une histoire, on a tous une famille. Et ce qui se passe dans, chez nos ancêtres, chez nos grands-parents, chez nos parents, dans notre enfance, compte beaucoup. Et nous allons voir quelle était l'histoire et la famille de Samuel. C'était pas, on pourrait se dire, oh là là, Samuel, un grand prophète, tout de suite quand le Seigneur l'appelle, il dit, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Une famille sans problème, sans histoire. Pas du tout. Pas du tout. C'est une famille qui vit des problèmes. C'est une famille où il y a des larmes. C'est une famille où il y a de la souffrance. C'est une famille où il y a de la rivalité et de la haine. C'est une famille où il y a du déni. Je ferme les yeux, je vois rien. Alors on va lire un petit peu l'histoire de cette famille. Le papa de Samuel s'appelle Elkana, au chapitre 1. Et au verset 2, on voit qu'il avait deux femmes. Ah ben ça commence bien là. Deux femmes. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Voilà un homme qui a donc deux épouses, il est polygame. Et la polygamie, ça fait toujours des histoires. Ça fait des histoires parce que quand on a deux femmes dans sa maison, eh ben, il y a une rivalité entre les deux. Est-ce que c'est moi qui l'aime? Est-ce que c'est moi qui l'aime plus? Et pourquoi moi il m'aime moins? Et pourquoi il m'a épousé en deuxième? Et pourquoi il l'a épousé en deuxième? Il y en a bien une qui a été épousée en première. Elle se demande pourquoi il a pris une deuxième femme après. Et inversement. Et en plus, là, eh bien, il y en a une qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, et l'autre qui peut en avoir. Ça nous rappelle une autre histoire de l'Ancien Testament, avec une grande rivalité entre deux femmes, n'est-ce pas? Et qui a donné les 12 tribus d'Israël. C'est entre Rachel et Léa, cette rivalité de Rachel, cette amertume dans le cœur qu'elle a, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et elle va user de toutes sortes de stratagèmes et elle va finir par avoir des enfants, mais la rivalité, la férocité, l'amertume restera dans ce foyer, marquera ce foyer et les enfants d'Israël, ils sont tordus. il y a 12 fils qui sont bien tordus. On trouve Joseph comme une lumière. Mais n'est-il pas vendu comme esclave en Égypte et laissé pour mort? Ah, quand il y a des problèmes dans la famille et des choses qui ne sont pas réglées, on va le voir dans notre texte. Eh bien, ça empêche l'appel de Dieu de retentir. Par contre, quand un parent, comme Anne, on va voir ça, répond à l'appel de Dieu pour régler sa vie, pour régler les nœuds de son existence, ça libère les enfants. Et ça leur permet, eux, de répondre à un appel de Dieu encore plus grand. Alors voilà que cette famille va chaque année là où il y a le tabernacle. Le tabernacle, c'est avant qu'il y ait un temple pour l'Éternel en pierre de taille, hein, un bel édifice bien, bien dur, non? Avant qu'il y ait le temple construit par Salomon, l'espace où sont offerts les sacrifices, il est abrité par tout un système mobile, démontable, des tentes. On l'appelle le tabernacle. Et chaque année, ils montent là où il y avait le tabernacle, c'était la ville de Silo, pour adorer l'Éternel. Et donc au verset 4, le jour où le papa Elkana offre son sacrifice, il donne des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Ah voilà, voilà Elkana qui a un amour plus particulier pour Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Voilà. Voilà Pénina, la seconde épouse qui a des enfants et qui profite du moment où on va louer l'Éternel pour faire du mal à Anne en lui disant, mais tu vois, tu n'as pas d'enfant, c'est certainement parce que l'Éternel me préfère, et puis l'Éternel, moi, il m'a béni, et toi, il t'a maudite, parce que on ne sait pas trop ce qu'elle lui disait, mais elle faisait ressortir le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant pour la mettre dans l'amertume, dans la colère, et même l'amener à en vouloir à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois stérile? Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas d'enfant? Et Pénina pousse ça pour que vraiment Anne soit en colère contre Dieu, en veuille à Dieu. Elle est en train vraiment de la pousser systématiquement à détériorer sa relation avec Dieu. Plutôt que de faire confiance à Dieu et accepter l'état où elle se trouve, et peut-être l'un ou l'autre, on a un handicap, on a eu tel problème dans la vie, on a eu telle famille, on a vécu tel traumatisme, et on peut rester toute notre vie en disant « Oui, Dieu, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça ?» Et rester dans l'amertume ou dans le doute. On est là et on voudrait s'engager pour Dieu et il y a quelque chose qui nous retient. C'est parce que quelque part au fond de nous-mêmes, pas loin, il y a une petite voix, la petite voix de Pénina qui nous dit, ah ben tu vois, hein, c'est l'Éternel hein, qui t'a rendu stérile. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas, tu as vu que tu es stérile. Et tu n'auras jamais d'enfant. Jamais. Eh ben. Et puis, il y a Elkana. Elkana qui est là entre les deux. Il donne une portion double. Il pense que ça va combler son manque d'enfant quelque part, que ça va la consoler, de lui montrer par un geste d'affection au travers du soin quelque part qu'il l'apporte, à lui donner deux fois plus, un peu comme si on donne deux fois plus de cadeaux à quelqu'un. Et puis il dit, mais pourquoi tu es triste? Il voit rien, il voit pas que l'autre femme, elle lui dit des méchancetés. Il n'a pas vraiment de notion de la tristesse de sa femme. Et on peut se poser la question. Moi, je me demande laquelle des deux femmes il a épousée en deuxième. Je suis quasiment sûr qu'il a épousé Pénina en deuxième. Pour quelle raison? Parce qu'Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est quasiment certain qu'Anne était sa première épouse. Et qu'au bout de quelques années, alors qu'il voit qu'il n'arrive pas à avoir d'enfants, eh ben, il prend une seconde épouse qui, elle, pourra avoir des enfants parce qu'il voulait des enfants. Et il fait rentrer une deuxième femme dans la maison. Alors, vous voyez ce que Anne a pu vivre en se disant, bah oui, j'arrive pas à lui donner d'enfants, donc il prend une deuxième femme. Puis après, à côté de ça, il me dit que c'est moi qui l'aime, hein, c'est moi qui l'aime. Et puis, lui, il vaut mieux pour moi que 10 fils. Il a du culot quand même, hein, de dire, est-ce que je vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Surtout si lui, il a pris une seconde épouse pour avoir des enfants. Bon, peut-être ça a été l'inverse, hein, peut-être qu'il a épousé un en deuxième, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que ça ne doit pas être la joie à la maison tous les jours. Vous avez le monsieur, vous avez deux dames, ces deux dames se détestent. Il y en a une qui n'arrête pas de harceler l'autre. Il y a l'autre qui a toute sa peine d'être stérile et d'en vouloir un peu à Dieu, d'alterner, elle ne sait pas quoi faire de cette épreuve de la vie vis-à-vis de Dieu. Pas la joie là. Et on se met dans le cœur d'Anne maintenant. Voilà une femme qui peut nous ressembler, qui, dans la vie, a ceci ou cela qui lui cause de la souffrance, qu'elle ne comprend pas pourquoi Dieu a permis ceci dans mon existence. Et on reste sur ça. Et on reste avec un souhait, un désir insatisfait. Elle aimerait avoir des enfants et elle n'en a pas et elle n'a pas d'horizon pour en avoir. Et on reste sur une frustration. Et puis avec tout ça, ben il faudrait être heureux quand même. Être heureux et puis être bien avec Dieu. Bien, ça se fait pas comme ça. Il y a une décision du cœur à prendre. Il y a un nœud. Un nœud qui est bien noué. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des nœuds à défaire et certains, ils vous prennent du temps à vraiment réussir avant de trouver déjà dans quel sens le fil y va, lequel il faut tirer en premier, réussir à lui donner un petit peu de jeu pour enfin pouvoir tirer. Oh, il y a des nœuds, ils sont compliqués. Eh bien, il y a des nœuds dans notre cœur. Le nœud d'âne, c'est cette stérilité qui reste pour elle une occasion de douleur, de souffrance, d'amertume, de dépression, et en plus, qui lui met sur le dos toute la méchanceté et la propre frustration d'une autre femme qu'elle subit et qui se transforme en harcèlement. Eh bien, Anne va répondre à l'appel de Dieu pour mettre fin à ce nœud. Ce nœud, c'est son amertume. Ce nœud, c'est cette colère un peu contre Dieu, cette incompréhension des plans de Dieu pour elle. Et donc une distance vis-à-vis de Dieu. Et ce nœud, c'est aussi, il faut le dire et c'est bizarre à dire, mais c'est son égoïsme. Moi, moi, moi et moi. Vous allez me dire, Adrien, t'es un peu dur avec Anne. Mais pour qui elle veut cet enfant? Pour elle. Elle n'a pas d'enfant. Elle aimerait un enfant. Un enfant la rendrait heureuse. J'ai besoin d'un enfant pour être heureuse dans la vie. Et moi, et moi, et moi. Elle me dit, mais comment tu sais que c'est son nœud? Ben, il suffit de regarder la manière dont elle le dénoue. Qu'est-ce que Anne va faire? Elle va aller et elle va prier devant l'Éternel. Elle va prier en lui disant tout ce qu'elle a sur le cœur, vraiment, avec larmes. Et on le voit au verset 10. L'amertume dans l'âme, elle en a gros sur cœur. C'est le moment du dénouement, c'est le moment où elle va répondre à l'appel de Dieu, c'est le moment où elle va céder. Le nœud va être défait. Et ça passe par la prière, ça passe par ce moment de tête à tête avec Dieu où vraiment on affronte le nœud de sa vie avec Dieu. On a le nœud et ça y est, c'est le moment où on le présente devant Dieu, on dit « Tu vois ce nœud, Seigneur, voilà mon problème, voilà ce qui m'arrive, voilà ma souffrance. » Mais je prends cette décision. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Ça, c'était difficile pour elle. Et c'est bien là le nœud qui est dénoué. Le nœud, il se dénoue lorsqu'elle est capable de dire « Je réalise qu'au fond de moi, cet enfant, je le veux pour moi. » Eh bien, si jamais j'ai un enfant, il sera pour l'Éternel. Pas pour moi, pas pour mon plaisir, pour moi. Mais il sera toute sa vie consacré à l'Éternel. Et c'est bien là tout le nœud qui est défait dans le cœur d'Anne. Elle arrête de se focaliser sur elle, sur son bonheur et sa souffrance. Et l'enfant qu'elle souhaite n'est finalement qu'un instrument pour elle. Elle dit, il faut arrêter que cet enfant que j'aimerais avoir soit un instrument pour moi, mais plutôt qu'il soit un instrument pour Dieu. Voilà comment elle répond à l'appel de Dieu. Dieu a travaillé son cœur pendant des années par la souffrance et par l'adversité, par la méchanceté d'une femme à ses côtés, par la stérilité, pour que Anne puisse passer d'une focalisation sur elle-même à dire « Maintenant, c'est Dieu. » Et quand elle se relève, elle est transformée, elle a changé. Elle a vraiment, c'est le verset 18 qui nous le dit, et cette femme s'en alla, elle mangea, alors qu'elle ne mangeait plus rien, parce que c'était le moment le plus difficile quand il montait au temple, elle ne mangeait pas, Eh bien là, voilà. Voilà qu'elle sait se réjouir et manger. Et le texte nous dit, et son visage ne fut plus le même. Ça y est, vous avez déjà vu des gens avec un visage toujours triste, toujours amer. Vous avez l'impression qu'ils portent le malheur du monde sur eux, jamais heureux, jamais un sourire. Anne, elle avait ce visage-là. Et quand elle se relève de sa prière, quand elle se relève de ce face-à-face avec Dieu où elle lui a apporté le nœud de son existence, où Dieu lui a montré quelque part que pour elle, c'était son cas, dans son cœur, défaire le nœud, c'était, mais tu le veux pour toi ou pour moi? Au fond, tu es focalisé sur qui dans ta vie? Et où elle a pu répondre à l'Éternel, Seigneur, pardon parce que quelque part j'étais focalisé sur moi, il sera pour toi cet enfant. Si j'en ai un, il sera pour toi. Eh bien, quand elle sort de ce face-à-face, son visage a changé. Elle n'est plus la même. Elle ne sait toujours pas si elle va tomber enceinte ou pas enceinte ou quoi. Comment Dieu va répondre ou pas répondre à sa prière. Mais elle a défait son nœud. Elle a répondu à cet appel de Dieu. Vous vous souvenez de cette prédication que j'ai faite lorsque notre frère Jacques Dessort nous a donné son témoignage début juin sur ces choses dans notre vie pour lesquelles on a peut-être demandé pardon. Et nous sommes pardonnés. Mais nous ne sommes pas guéris. Ces nœuds de notre existence, ces pivots de notre vie que nous avons besoin de régler, que nous avons besoin de guérir, d'être guéris par le Seigneur, mais le Seigneur ne les guérira pas sans nous. Et on le voit très bien dans l'histoire d'Anne. Frères et sœurs, nous avons besoin en tant que parents de répondre à l'appel de Dieu qui nous demande de défaire les grands nœuds de notre vie pour pouvoir libérer nos enfants et leur permettre à eux plus tard, d'être prêt à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire qui continue. Effectivement, Anne va donc tomber enceinte, elle va avoir un enfant qu'elle va appeler Samuel, et elle va le garder avec elle jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin du lait maternel, jusqu'à ce qu'il soit sevré, sans doute autour de 3 ans. Et une fois que le jeune enfant Samuel, vers 3 ans, est suffisamment grand quelque part, eh bien, elle arrive au temple, à Silo, et elle l'amène au sacrificateur Élie. Et elle... Je cherche le texte, c'est la fin du chapitre 1. Elle rencontre Élie. Et verset 26, Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. » Elle lui avait pas dit pourquoi elle priait, à Élie. « Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Chapitre 2, verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin, sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Fin du verset 21, le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Voilà l'histoire de cet enfant qui arrive dans le tabernacle avec tout le sacerdoce, tous les rites, tous les sacrifices, et le souverain sacrificateur qui est là. Et il n'est plus avec sa maman, avec son papa. Ça doit être quelque chose pour un enfant que de quitter sa famille, quitter son foyer vers l'âge de 3 ans et d'être amené ailleurs. Et sa maman vient le voir une fois par an et elle lui fait un nouveau vêtement pour l'année. Et Samuel grandit dans ce contexte un petit peu particulier de coupure familiale. Est-ce que l'environnement dans lequel il grandit est un environnement sain? On se dit, oh, il est quand même dans la maison de l'Éternel, il est dans le tabernacle, il est avec des gens bien. Ben, il n'est pas avec des gens bien. On va voir avec quel type de gens il est. Chapitre 2, verset 12. Donc, Élie est le souverain sacrificateur du tabernacle. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Ça continue les explications. Qu'est-ce qu'on apprend encore des fils d'Élie et de qu'est-ce qu'ils font au temple? Au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors les hommes d'Élie, pardonnez-moi l'expression un peu crue, mais c'était des hommes qui ne pensaient qu'à bouffer et à baiser. Eh oui, c'était ça. Et l'Éternel voulait les faire mourir et va les faire mourir. Alors qu'ils servaient Dieu, alors que ils étaient vraiment dans de la principale famille d'Israël, les fils du souverain sacrificateur, il est dit, mais eux, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Dans leur cœur, ils ne connaissent pas l'Éternel. On dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu? Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu? Eh bien, c'est parce que leur père ne savait pas leur faire de reproches, ne savait pas les enseigner, les reprendre. Vous savez, ce sont les enfants rois à qui on dit oh, « c'est pas bien de faire ça ». Et puis ils savent que vous avez l'air tellement convaincu qu'ils n'en ont rien à faire. Rien. Et c'est des enfants qui grandissent, ils obéissent pas à grand chose, ils font à peu près ce qu'ils veulent dans la vie. Il y a les parents qui font semblant de les gronder, c'est pas bien. Mais il n'y a jamais de teneur derrière. C'était le cas du sacrificateur Élie. Il n'avait pas résolu, lui, un nœud. C'était le nœud de l'éducation et de la bonne éducation de ses enfants. La parole de Dieu nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, le bâton de la correction l'en éloignera. Ce bâton de la correction, Élie ne savait pas l'utiliser dans sa manière d'éduquer, dans sa posture en tant que père. Et le Seigneur ne s'y trompe pas. Le Seigneur voit que Élie met ses enfants à la première place avant Dieu. Ce que ses enfants veulent passe avant ce que Dieu veut. Ah ben, j'ai pas envie d'aller à l'église. Ah ben, on va pas aller à l'église. Ah ben, j'ai pas envie de ceci. Ah ben, on va faire comme ceci alors. Et Dieu va envoyer un prophète spécifiquement pour le dire à Élie, c'est le verset 27, 1 Samuel 2, 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Au milieu du verset 29, il lui dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes, etc. Au verset 30, il dit, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et il lui annonce donc, au verset 34, hein, que ses deux fils, dont on connaît les noms dans ce verset-là, « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, fils Ophni et Phinéas, ils mourront tous les deux le même jour. » Dieu va en dire davantage quand il va se révéler à Samuel, parce qu'on peut se dire, tiens, c'est pas très clair, est-ce qu'il les a grondés, ses enfants pas grondés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il les a honorés et dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Leur parole compte plus que la mienne. Leurs désirs sont des ordres. Moi, mes ordres sont des possibilités. Hein? On sent qu'il y a deux poids, deux mesures. Il fait tout pour ses enfants, c'est ses enfants qui gouvernent. Dieu va parler à Samuel à propos de ce jugement. Hein? Chapitre 3. Au verset 13. Verset 12 déjà, il dit, « En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Sans qu'il les ait réprimés. Il n'a pas mis de haut là. Il n'a pas su dire non, dire stop, dire ça ne va pas. Il n'intervient pas. Et ça amène à des enfants qui tournent mal. On peut se dire, oh là là, ils ont mal tourné les enfants d'Élie. Alors ils emportent une responsabilité personnelle. Mais ils n'ont pas mal tourné comme ça. Ils ont mal tourné parce que leur père n'a pas su répondre à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, c'était son ministère de souverain sacrificateur. C'était d'être là comme le grand chef spirituel d'Israël pour dire le bien, pour dire le mal, pour que les gens qui venaient à la maison de l'Éternel vivent la sainteté, la joie et la pureté. Qu'est-ce qui se passait? Non, ils venaient, ils ont fait des sacrifices. Dans les sacrifices, on leur piquait, on leur volait. Il y avait une malhonnêteté, il y avait du business qui se faisait. Et les gens, ils ne pouvaient que se taire. Ils étaient victimes d'une sorte de chantage et d'une sorte d'escroquerie. Et puis en plus, quand les gens venaient, ah ben, ils trouvaient des femmes avec lesquels ils allaient coucher. Alors vous venez à la maison de l'Éternel et puis ça finit dans un lit en grande débauche. Super, hein, super. Ça, sous la gouverne d'Élie, le souverain sacrificateur. Parce qu'il avait reçu un appel, c'était la sacrificature, et cet appel, c'était aussi de savoir éduquer, reprendre et corriger ses fils. Et il n'a pas répondu à cet appel-là. Il y avait un nœud dans sa vie vis-à-vis de ses enfants qu'il n'a pas résolu. Et on dit, ben, ils ont mal tourné. Et c'est pour ça que Dieu s'adresse au Père, parce qu'il est responsable. Et nous voyons là le grand contraste entre Anne et Samuel et Élie et ses fils. Anne, elle a vécu des choses difficiles, elle était dans le doute, dans l'amertume, dans le balancement vis-à-vis de ce qui lui arrivait dans la vie, dans l'existence. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Et moi? Mais à un moment, elle sait dénouer le nœud. Elle accepte de dénouer le nœud qu'il y a dans sa vie, ce nœud d'amertume, d'égocentrisme, de colère contre Dieu. Elle dénoue le nœud et elle donne à son fils Samuel un repère fondamental. Samuel, il va répondre à l'appel de Dieu, il va marcher pour Dieu parce que sa maman a posé dans son existence un repère fondamental et ferme. Et tout l'enseignement des Proverbes nous dit ça. L'enseignement d'un père, l'enseignement d'une mère. Oh, pas seulement en parole, mais par l'exemple de leur fille. Si Samuel avait eu l'exemple d'une maman qui dit « Oui, il faut servir Dieu hein. », puis à chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle pleure, elle est amère, elle est en colère contre Dieu, et en fait, c'est la plus malheureuse des femmes, je ne suis pas bien convaincu que Samuel aurait été l'homme qu'il est devenu. Mais sa maman a posé des repères précieux parce qu'elle a réglé les problèmes qu'elle avait besoin de régler dans sa vie. Élie, lui, n'a jamais voulu affronter les nœuds de son existence. Et il a laissé filer, il a laissé grandir, il a laissé continuer. Comme si de rien n'était, vous savez, on est dans le déni un petit peu, on pense que ça ira bien quand même, on ne veut pas trop affronter les questions un peu sensibles et douloureuses sur soi. Et le résultat, c'est les fils qu'il a eus. Frères et sœurs, vraiment, ce matin, je crois que nous avons besoin de comprendre que l'appel de Samuel, que nous allons lire tout à l'heure et qui est tellement beau, il ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe comme ça, tac, il n'arrive pas. Il arrive avec les parents qui eux-mêmes ont répondu à l'appel de Dieu vis-à-vis des nœuds de leur cœur, de leur vie, de leur existence. Si nous voulons que nos enfants se lèvent pour Dieu, il va falloir que nous défassions les nœuds de notre existence. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Bien sûr, c'est toujours formidable lorsqu'on peut le faire très jeune. Le plus tôt possible. Avant que nos enfants ne grandissent comme les fils d'Élie et se détournent du Seigneur et prennent des chemins où on sent bien que dans leur cœur, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'en ont rien à faire des choses spirituelles. Et ils tracent leur vie, ils traceront aujourd'hui la vie comme tous les jeunes le font. Les plaisirs du monde. Tu vois, avec telle ou telle pratique, qu'importe, mais sans Dieu. Le jeune Samuel répond à l'appel de Dieu alors qu'il n'a peut-être que 6 ou 7 ans. Il est jeune. Mais ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu. C'est ce que l'appel de Samuel nous montre. Un enfant comprend, et il comprend bien. Quand Dieu parle à Samuel du jugement d'Élie, on a l'impression qu'il lui parle comme un adulte. Hein. Vraiment, comme un adulte. Parce que Dieu n'est pas stupide comme nous le sommes. Il sait qu'un enfant comprend, et comprend beaucoup plus que ce qu'on croit. Nous, on a une tendance à croire qu'un enfant est trop jeune pour comprendre les choses de la parole de Dieu. Qu'il est trop jeune pour qu'on lui parle du salut. Pour lui, qu'il est trop jeune pour qu'on lui parle vraiment profondément de son âme et de son cœur. Alors on le laisse grandir, on le laisse grandir. Sans l'interpeller sur son cœur. Pas pour rien si on dit qu'à 7 ans, c'est l'âge de raison. Parce que entre 7 et 8 ans, un enfant, il a suffisamment de maturité cognitive, intellectuelle, affective. Ce sont les enfants qui sont à peu près en CE2. Hein. Voilà. CE2, c'est la transition. On le voit dans tous les enfants, je le vois dans les écoles. C'est un âge où vraiment les enfants, ils ont une connaissance de leur environnement, d'eux-mêmes suffisante, une maturité affective suffisante, et c'est l'âge où ils prennent les premières grandes dispositions intérieures de leur cœur. Et ça, je crois qu'il faut qu'on s'en rende compte. Les grandes décisions de la vie, ce n'est pas à l'adolescence qu'on les prend. Les orientations de ce qu'on va devenir, ce n'est pas quand on est préadolescent qu'on les prend. C'est quand on a l'âge de raison, c'est 7, 8 ans. C'est un âge tranquille et calme. Mais vous savez, vous allez savoir rapidement quelles dispositions intérieures ils vont prendre dès qu'ils arrivent au CM1, CM2. CM1, CM2, c'est l'horreur, tout le temps, dans les écoles. On dit, mais on ne comprend pas, ils étaient tellement mignons en CE2. Puis CM1, CM2, là on commence. Mais vous croyez que ça vient comme ça, là, de rien, de nulle part? Non, non, non. Ce sont les dispositions intérieures qui ont été prises à 7 et 8 ans qui sont en train de germer, de s'extérioriser et de porter des fruits. Et là, on essaie un petit peu de leur parler et on commence à s'affronter à un mur parfois. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Samuel était jeune et il a pris des dispositions intérieures jeunes parce qu'on est capable de prendre des dispositions intérieures jeunes. Et souvent, en tant que parent, on marche un petit peu dans la naïveté et l'ignorance à cet égard-là. Peut-être on est comme Élie. Moi, j'imagine bien Élie. Il était tout le temps là. Ah, mais ils sont petits. Vous savez, quand ces garçons avaient 3 ans et qu'ils fracassaient les autres à côté. Ah, c'est... Oh, mais il est petit, il ne comprend pas. Puis après, il avait 5 ans, tu vois. 5 ans, tu parles bien quand même. Tu sais ce que tu fais. Hein. 5 ans, à 5 ans, distinguer le bien et le mal. On y est. On distingue le bien et le mal à 5 ans. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jusqu'à ce que l'enfant sache distinguer entre le bien et le mal et rejeter le mal. Alors oui, il y a un âge où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On n'a pas assez de conscience. On apprend. Un enfant découvre et apprend le monde qui l'entoure et il doit apprendre le bien et le mal. Il y a 5 ans, on le sait. Alors j'imagine bien Élie qui était là, oh, mais il ne comprend pas, il manque, il n'est pas encore mûr, il n'est pas assez grand. Oh, mais tu ne recommenceras pas, tu recommenceras. Et puis, ils ont grandi, ils sont arrivés à 6, 7, 8 ans, à faire les 400 coups, certainement, ces deux gardements. Et puis, tout le temps, les parents leur trouvent des excuses. Ils sont là et ils ne veulent pas affronter la réalité en face. Ils ne veulent pas parler au cœur de leurs enfants. Et ils sont là à continuer à subir. Moi, j'imagine que ces enfants-là ont grandi comme ça. C'est le type d'enfant qui a grandi comme ça. Puis peut-être le jour où Élie a voulu se réveiller, tu vois, ils avaient 12 ou 13 ans, mais c'était trop tard. Ils avaient déjà la tête dure comme un caillou. Ils étaient dans la préadolescence, et puis une préadolescence bien avancée, parce que ça avait été les enfants rois, c'était... et que les dispositions intérieures de leur cœur, leur père n'y a pas veillé. Il n'a pas veillé à ce qu'ils connaissent l'Éternel. Et c'est tout le contraire pour Samuel. Il a une maman qui a fermement résolu le nœud de sa vie. Moi, j'aimerais témoigner de cela. Vous savez, on peut être appelé par Dieu même si on vient d'une famille compliquée. Mais quand nos parents résolvent leur nœud. Moi, ma famille, c'est pas la famille dans laquelle je pense on aurait voulu arriver à l'époque. Mon père vivait une vie de débauche absolue, dans laquelle ensuite il a entraîné ma mère. J'ai une cicatrice là, je crois, au sourcil. Ça, c'est un des souvenirs des soirées d'orgie dans lesquelles il m'emmenait avec eux. Je me suis blessé. Jusqu'au jour où mes parents, ma maman, a disparu. Puis plus tard, du coup, dans ce chemin de dire ça suffit, elle a rencontré Jésus. Et mes parents se sont convertis, ont donné leur vie au Seigneur. Et ma maman avait pris une ferme décision. Oh, elle avait ses travers, elle avait des tas de choses, mais elle avait pris une ferme décision de suivre Jésus et d'enseigner ses enfants. Alors moi, ça fait partie de mes mauvais souvenirs d'enfance, hein, quand on lit la Bible le soir à la maison. Oh là, c'est long. On s'ennuyait. Et puis en plus, ma mère, elle était toujours à vouloir nous l'appliquer pour nous. Donc du coup, elle posait des questions. Donc tu avais l'impression qu'elle faisait un truc de moral. En attendant, la parole a été plantée. Et elle a germé. Et des 4 enfants qu'elle a, tous appartiennent à Jésus-Christ. Et en dépit de l'histoire mouvementée de mes parents, et bien malgré tout, il y a eu des enfants que ma maman, par une décision ferme comme Anne, eh bien, elle a pu amener les cœurs de ses enfants au Seigneur et donner un repère, donner, vous savez, une pierre sur laquelle bâtir, voilà, solide. Et ça, c'est essentiel. C'est ce que Élie n'a pas fait. C'est ce que Anne fait. On est dans le sujet de Dieu qui nous appelle, n'est-ce pas? Et j'aimerais vraiment qu'en Église, ce matin, nous réalisions que Dieu veut appeler nos enfants, nos jeunes enfants. C'est tellement triste quand nous voyons les enfants grandir et puis on voit bien qu'ils arrivent à 12 ans pour commencer à les tirer de toutes les forces. Ils n'ont pas d'intérêt pour les choses spirituelles. À 15 ans, ils ont déjà réussi à négocier avec les parents s'ils viennent, s'ils ne viennent pas. Ça, c'est négocié. Et puis à 18 ans, allez, je fais ma vie et c'est terminé. Et vous les voyez partir de nos églises, ils n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie. Il n'y a pas de vraie conversion dont on voit des fruits. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'intérêt. Ils vont vite se trouver un copain, une copine, se mettre plus ou moins en couple, et puis... Allez, va la vie. Hein? C'est tellement dommage quand on a été éduqué, qu'on a grandi dans une église. Mais ça arrive, et ça arrive plus que ce qu'on croit, c'est exactement le cas de figure d'Élie, souverain sacrificateur, dont les enfants grandissent au tabernacle. Mais, en dépit de cela, ils ne reçoivent pas une vraie relation avec leur papa de cœur à cœur, où il est cet homme qui a le courage d'aller au fond des choses, de dire les choses, parce qu'il n'a pas dénoué ce nœud. Et tout au contraire, si nous voulons que nos jeunes se lèvent pour répondre à l'appel de Dieu, il va falloir que nous, les plus anciens, on se lève aussi pour répondre à son appel lorsqu'il nous demande de régler les choses de notre vie, de notre existence, de dénouer nos nœuds. Et nous avons vu, il y a un mois, notre frère Jacques de Sors dénouer les siens. Amen. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas d'âge. C'est toujours bien quand ça se fait tôt. Parce qu'il y a toujours des conséquences sur les enfants. Néanmoins, il n'y a pas d'âge pour les dénouer. C'est toujours constructif, même si c'est tard, de dire ce nœud-là, je vais le dénouer et ça va être en bénédiction autour de moi. Et si moi je réponds à cet appel de régler ces choses-là dans ma vie, il faut que je prenne conscience que ça va avoir des répercussions où des plus jeunes et d'autres autour de moi vont pouvoir aussi répondre à un appel de Dieu et à un appel plus grand. L'appel auquel Samuel répond est un appel plus grand que celui auquel Anne répond. Anne, son appel, ça la touche elle, ça la touche elle et son mari, et Pénina, ça touche son foyer. Mais elle va permettre à son fils Samuel ainsi d'avoir dans le cœur cet enseignement et ses repères, cette structure spirituelle, cet exemple, pour lui répondre à un appel de Dieu beaucoup plus grand qui va toucher toute la nation d'Israël. Alors on va lire ce bel appel de Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Un enfant qui, rappelons-le, n'a pas eu la vie facile, quelque part. Il a été avec sa maman pendant 3 ans, puis après il est amené dans ce temple. Il dort même à l'intérieur du tabernacle, nous est-il dit. Et il est là au service, il fait du service. Il se dira, ben pourquoi moi je ne vais pas jouer au football avec mes potes, et puis pourquoi je suis là? Et pourquoi ma mère, elle a eu cette idée saugrenue de me prêter à l'Éternel toute sa vie? J'ai rien demandé. Et pourquoi le vieux, là, en plus, il n'y voit plus rien, il m'appelle en pleine nuit, l'autre? Comment ça m'énerve, celui-là? Et en plus, parle. T'as vu comment ils sont, ses fils? Est-ce que vous croyez que Samuel était entouré de bons exemples? Il n'était pas entouré de bons exemples. Mais il avait le repère d'une maman, un beau repère solide et ancré, qui lui a permis de distinguer entre le bien et le mal. Et c'est pas Élie qui lui a permis de distinguer entre le bien et le mal. C'est sa maman. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il est patient, hein? Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et l'Éternel parle à Samuel. Et il l'appelle par son nom, Samuel. Samuel. Dieu veut adresser un appel à chacun d'entre nous et en particulier aux enfants. Il n'y a pas de trop jeune âge pour répondre à l'appel de Dieu. Je pense, puisque nous sommes en famille aujourd'hui, tous les enfants sont là. Je pense à votre grand-père, hein, que l'Éternel a appelé à son service en France dès 11 ans. Papy a reçu cet appel pour la France à servir le Seigneur. À 11 ans, on peut dire, ouais, c'est un peu jeune, c'est n'importe quoi. C'est peut-être n'importe quoi. En attendant, il est dans les 70 aujourd'hui. Et il a fait cette route au service du Seigneur avec droiture et fidélité. Est-ce qu'il y a un âge trop jeune pour répondre à l'appel de Dieu et pour que Dieu nous appelle? Non? Alors les enfants, si Dieu vous appelle, comme Samuel, répondez-lui. Répondez à son appel. Et nous, dans l'Église, pour que nos jeunes répondent à l'appel du Seigneur. Réglons ce qui a réglé. Répondons aux appels du Seigneur qui nous dit, tu as toujours un nœud hein, dans ta vie, dans ton cœur. Regarde ce nœud, tu ne l'as pas réglé. Ça te rend amer, ça te rend en colère, ça te rend... Règle-le. Défais ce nœud. Et si nous le faisons dans l'Église, plus nous serons nombreux à le faire dans l'Église, notre église sera une église où Dieu peut appeler des jeunes et les jeunes répondront à son appel. Prions. Seigneur, nous désirerions une église où de nombreux jeunes reçoivent ton appel et y répondent favorablement parce que ils savent entendre ta voix. Et se présenter en disant, me voici. Se présenter en tant que tes serviteurs, qui disent, parle car ton serviteur écoute. Et tu nous montres, Seigneur, que avant cela, nous sommes tous concernés, en tant qu'adultes dans l'Église, pour la génération qui vient. Seigneur, tu nous confies une nouvelle génération, des enfants qui aujourd'hui ont peut-être entre 8 et 15 ans. Et cette génération, Seigneur, nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables tous ensemble en Église, là où tu nous demandes de dénouer nos propres nœuds à nous. Seigneur, peut-être qu'on se dit que ça n'a aucun rapport avec l'appel de nos jeunes. Et pourtant, tu nous montres, par ces textes aujourd'hui, que le rapport est direct, que le rapport est grand. Que le rapport, Seigneur, entre une église dont les jeunes se lèvent pour te servir, cela est en rapport direct avec les adultes, du plus jeune adulte au plus âgé des adultes de l'Église, qui sait répondre à ton appel, de dénouer les nœuds de son existence. Seigneur, nous voulons croire que tu travailles dans ce sens en ce moment. Et notre frère Jacques nous en a montré le chemin. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour plusieurs générations de nos jeunes qui ont pu ressembler au fils d'Élie et partir dans le monde et se perdre dans le monde. Quel gâchis. Alors que nous puissions nous remettre en question de manière profonde et sérieuse, comme Anna fait. Et ce n'est pas facile, Seigneur, parce que nous sommes face à nous-mêmes, face à nos problématiques, à nos contradictions. Et il faut, Seigneur, pouvoir te céder, comme Anne t'a cédé Samuel et te l'a prêté pour tous les jours de ça. Mais Seigneur, ce sacrifice qu'elle a fait, et là où elle a su te céder. Seigneur, tu l'as récompensée, tu ne l'as pas laissée manquer. Mais au contraire, tu l'as comblée et abondamment comblée. Alors, aide-nous, Seigneur, en Église, à construire et à bâtir dans ce sens. Et ça commence, Seigneur, par chacun de nos foyers, chacune de nos familles. Agis, Seigneur, avec puissance dans la vie de nos jeunes, en commençant par nos vies, à nous les plus vieux. C'est au nom de Jésus que nous te faisons cette prière. Amen.